Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'Alliance biblique universelle a publié le 5 mai dernier le nombre de personnes qui ont eu accès en 2025 à la Bible dans leur langue maternelle. Elles sont 32 millions à avoir bénéficié pour la première fois d'une traduction biblique. Cette heureuse nouvelle nous pousse à nous interroger sur la pertinence de lire la Bible aujourd'hui et puisqu'il est parfois difficile de la comprendre, à l'étudier à travers l'exégèse. Pourquoi lire et étudier la Bible aujourd'hui? C'est la question posée aux deux invités de Radio Présence aujourd'hui. Nous sommes avec Marie-Christine Chou.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez suivi des études bibliques pendant 36 ans. Et vous avez aussi enseigné à l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez été correctrice au TEB, le Toulouse Enseignement Biblique. Vous avez enseigné donc la Bible à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse. Et puis, vous donnez aussi des conférences. Vous êtes chroniqueuse sur RCF Pays d'Arnais.
Et j'étais aussi professeure d'allemand. J'ai mené ça en parallèle pendant 32 ans.
Et une belle carrière. À vos côtés, Isabelle Rousselin, bonjour.
Bonjour.
Rapprochez-vous du micro. Vous avez été correctrice au Toulouse Enseignement Biblique. Vous avez terminé un certificat d'études bibliques à ce même TEB qu'on appelle comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes animatrice en pastorale scolaire au collège et au lycée Émilie Drodin.
Tout à fait.
Voilà. Alors, j'aimerais que nous commencions cette émission par vos témoignages respectifs. Comment, Marie-Christine Chou, êtes-vous arrivée finalement à la Bible?
Eh bien, bon, d'abord, j'ai été élevée dans la foi chrétienne, mais en fait, lorsque j'étais professeure d'allemand, la direction m'a demandé de prendre en charge un groupe de terminale pour la catéchèse. Et là, je me suis aperçue que j'étais vraiment complètement ignorante de la façon avec laquelle il fallait lire la Bible. Donc, ça a été un travail dans les années 80, vous voyez, ça remonte à quelques décennies. Et donc, j'ai senti qu'il me fallait me former. Mais je travaillais, j'avais des 4 enfants, j'avais une vie de famille, je n'habitais pas à Toulouse. Donc, le TEB, qui était un enseignement par correspondance, m'allait très bien. Et j'ai donc commencé ce parcours avec le fondateur, qui était mon correcteur, le père Montloubou, qui m'a beaucoup appris. Et ce parcours a duré 10 ans. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ce parcours, je me suis aperçue que j'avais aussi besoin d'approfondir toute la réflexion théologique. Et c'est comme ça que je suis allée à la faculté pour poursuivre des études de théologie.
Et donc aujourd'hui, vous diriez que les études bibliques et les études de théologie se complètent?
Sont absolument complémentaires. L'une renvoie à l'autre et inversement. Voilà, parce que, par exemple, dans les années 70-80, l'approche biblique se faisait par la méthode historico-critique, qui est une excellente méthode, mais qui, lorsqu'on n'y est pas préparé, peut déstabiliser le lecteur.
Vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste?
Alors, la méthode historico-critique est la méthode qui renvoie à l'origine du texte. Et alors, on s'aperçoit, par exemple, le premier contact que j'ai eu qui m'a déstabilisé, c'est que les récits de la création étaient des mythes. Donc, voilà, il a fallu que je digère ça, puis enfin, des tas d'autres éléments. Lorsqu'on lit surtout l'Ancien Testament, il y a des éléments qui perturbent. On voit qu'il y a deux récits qui sont du même événement, mais tellement différents. Et c'est ainsi qu'on apprend qu'il y a différents courants, Et alors, ça déstabilise au départ. Et oui. Puis ensuite, on s'aperçoit qu'en réalité, ça ne change rien au fond, qui est un témoignage de foi.
Oui. Voilà. Pour vous, Isabelle Rousselin, comment êtes-vous arrivée à cette lecture régulière de la Bible et à cette étude?
Alors, ça a commencé aussi pour moi dans les années 80, mais j'étais alors à l'école primaire et je me souviens encore de la découverte, par exemple, du récit de Zachée quand on a préparé la première communion. Oui. Et puis après, avant, j'avais déjà été touchée par Balaam et son ânesse et puis cet astre qu'il annonce. Plus tard, le rejeton de la souche de Jessé, ça m'a paru intéressant. Et puis, à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de scoutisme. Et au moment de la promesse, on nous demandait de mettre en relation un article de la loi scout avec un évangile. Et moi, j'avais des problèmes un peu avec l'obéissance. Donc, j'ai choisi la guide obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Et l'évangile de l'appel des disciples, laissant tout, ils le suivirent. Voilà, donc j'ai eu des contacts comme ça avec des textes. Et puis, on avait un curé italien qui avait le don de nous faire des homélies vivantes. Il nous parlait de pizza, de pasta et de voyage. Donc, ça nous aidait, en fait, à rentrer dans les textes. Je me souviens d'une... Et puis, ça me touchait, moi, l'adolescente. Je me souviens encore de son homélie sur la fille de Jaïr et l'hémorroïs. Enfin, je me souviens précisément de la lumière
fou, hein,
dans l'église, au moment où je prends contact avec ces deux femmes. Après, plus tard, à 27 ans, j'ai retrouvé ce verset, laissant tout, ils le suivirent, et je suis rentrée au monastère. Donc là, ça a été aussi pour moi une fréquentation quotidienne de la Bible. De 4h à 6h du matin, on était en cellule pour étudier les textes du jour. Et là, j'avais vraiment plongé dans les évangiles et les épîtres, parce que c'était un monastère byzantin, donc à la messe, on lit que le Nouveau Testament. Et c'est là que j'ai rencontré le Thèbes. Et j'ai suivi donc le certificat d'études bibliques, donc 5 ou 6 devoirs par an, mais on plonge et on vit avec ces textes, on se bat avec eux le temps qu'il faut pour pouvoir rendre un devoir, en fait. Et donc, ça, c'était très formateur.
Et le fait d'être seul derrière votre ordinateur et avec votre vie pendant ces 2 heures en cellule tous les matins, ça n'a pas été difficile?
Ah, moi, c'était un délice. J'avais l'impression d'être au paradis. Il y avait les oiseaux qui chantaient, les fleurs. Et puis, non, quand même, dans cette communauté, tous les vendredis, c'était désert. Donc, on n'avait pas d'office, pas de repas en commun. Mais on avait, la mère égoumène, l'équivalent de l'abbesse, avait discerné. Parfois, elle passait la journée de jeudi en prière, le texte qu'elle allait nous donner à méditer le vendredi. Et on mettait en commun le dimanche soir. Donc, il y avait une dimension aussi de partage et la communauté avançait comme ça, en fait. Il y a des décisions qui avaient été prises suite à ces méditations solitaires, mais aussi communautaires.
Oui, partagées.
Voilà, donc ça, c'était très, très beau. Bon, à cette époque, j'ai été très aussi touchée par le verset d'Isaïe, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ».
Bien sûr.
Voilà. Parce que ce n'est pas que de l'obéissance, c'est aussi surtout de l'amour, cette histoire qu'on lit dans la Bible.
Oui.
Voilà.
Et votre réponse pour entrer au couvent a été une réponse à cet amour de Dieu.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Oui, oui.
Voilà.
Et donc on voit bien que la parole de Dieu vous a accompagné. Aujourd'hui, elle vous accompagne encore.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai quitté la vie monastique en 2020. Et si je suis venue à Toulouse, c'est aussi parce que j'avais ce lien grâce au Thèbes avec cette ville. Je continue à travailler, à pratiquer la Bible par la prière personnelle, la méditation des textes, en particulier des psaumes, parce que j'essaie de faire comme je peux, les lodes et les vêpres. Et puis aussi par le biais d'une fraternité paroissiale. Donc tous les 15 jours, sur ma paroisse du Sacré-Cœur, on est une douzaine à se rencontrer pendant 1 heure pour lire l'évangile du dimanche suivant. Et puis le but aussi, c'est quand même d'accéder à une vie fraternelle avec aussi de l'entraide, de la prière. Alors on a un schéma très simple en 3 tours, on a quelques règles et puis ça nous lie beaucoup. Et l'autre jour, il y avait un orage pas possible, et on était presque tous là parce qu'on avait bravé la pluie, parce que ça nous ressource en fait beaucoup. Ça. Et puis au travail, bien sûr, comme animatrice en pastorale scolaire, j'essaie d'introduire les jeunes aussi à la lecture de la Bible. Donc avec les 6e, on lit forcément l'évangile du jour. On n'a que 10 minutes, donc on fait ce qu'on peut. Par contre, avec les lycéens, on peut prendre plus de temps, 1 heure avec un texte. Et c'est très beau quand je l'ai fait le lundi avec la fraternité paroissiale et que je le refais le vendredi. Et elles m'apprennent la Bible, continuent à me dire des choses par la voix de ces lycéennes, en fait. Donc ça, c'est une très belle expérience, à la fois donc comme personnelle et communautaire.
Marie-Christine Chouk, est-ce que vous avez cette expérience aussi aujourd'hui d'une lecture et une étude de la Bible personnelle et communautaire?
Alors personnelle, oui, très personnelle, puisque mon mari qui est bouddhiste au départ, nous sommes mariés depuis 56 ans, nous étions mariés avec une autorisation à l'église, mais nous n'avions pas eu le sacrement. Et donc mon mari, à la suite d'un drame qui nous a touchés il y a moins d'un an, le décès de notre fils, a demandé à faire une démarche baptismale. Il a été baptisé le jour de Pâques. En fait, c'était une démarche qui le travaillait depuis longtemps. Et donc, je l'ai accompagné dans cette démarche. Il a demandé le baptême le jour de Pâques. Il a été confirmé à Pentecôte. Et donc, je travaillais. Le mot travailler, nous partageons. Nous avons fixé tous les jours une lecture d'un passage. Alors, pour l'instant, on se limite au Nouveau Testament parce que il faut penser qu'une culture aussi différente de la nôtre, qu'est la culture asiatique, il n'y a pas les clés de lecture, le vocabulaire, etc. Donc, je fais un petit peu à ma façon. Et le soir, nous prions ensemble à partir aussi des textes bibliques.
Et voilà. Comment vous choisissez ce texte du Nouveau
Alors,
Testament?
Alors, je choisis en fonction de ce que je pense qui va l'intéresser. Alors, évidemment, on a d'abord choisi les textes qui étaient en accord avec la démarche baptismale et la confirmation et l'Eucharistie. Mais voilà, après je choisis plutôt des textes. Alors souvent je prends les textes du jour que j'ai en priant en église.
C'est facile et c'est donné, c'est
voilà.
Cadeau de l'église.
Et si je vois qu'ils sont trop difficiles, je vais chercher des textes. Alors je mets surtout l'accent, bon j'aime beaucoup Jean, j'ai fait ma thèse sur Jean, mais je mets surtout l'accent sur ce thème essentiel qu'il y a partout, hein, pas seulement en Jean, mais particulièrement en Jean, de l'amour, voilà, de l'amour. Et alors, il y a énormément de passages en Jean où on peut se référer à ce grand amour de Dieu pour les hommes,
oui.
Auquel nous sommes invités par Jésus.
Comment votre mari réagit en découvrant tous ces textes?
C'est très difficile. Là, je me rends compte la difficulté de notre vocabulaire que nous, pour nous, c'est très facile parce que nous avons grandi.
Oui, vous avez baigné dedans.
On a baigné dedans, mais je me rends compte à quel point c'est difficile, le langage biblique ou le langage même liturgique, pour quelqu'un qui débarque là comme ça, à 83 ans, je précise. Et voilà. Mais on fait comme
souplesse.
On peut.
Hein. Oui, Isabelle Rousselin.
C'est vrai que la Bible, c'est en fait tout un monde qu'il faut découvrir. Donc il y a une géographie, il y a des lois, il y a un vocabulaire, il y a une terre aussi. Et c'est vrai que ça demande de la patience, ça demande du temps pour rentrer dans ce monde et être à l'aise. Mais très rapidement, en fait, il y a des textes qui deviennent comme des amis,
oui,
et sur lesquels on peut s'appuyer,
voilà.
Et qui vont éclairer d'autres textes, qui vont résonner en nous, qui vont nous habiter. Donc ça peut venir quand même assez vite. Enfin, après, il y a des jours où on est un peu sec. Hein. Donc moi, on m'avait dit, tu recopies. Et la parole, elle va te travailler et tu vas te l'approprier. Le geste quand même de la main, comme ça, il aide aussi à rentrer dans ce monde.
Alors, attendez, décrivez-nous ce geste de la main.
Eh bien, moi, je prends le texte et je le recopie. Et puis ensuite, j'entoure les mots qui reviennent, je mets des couleurs. Donc, on comprend mieux, on voit les choses ressortir.
Alors là, je pense que c'est peut-être faisable avec des gens plus jeunes, mais il faut penser que quand on a quelqu'un qui a un certain âge, une certaine vie derrière lui, une certaine formation...
Et des habitudes aussi.
Intellectuelles, etc. Je me rappelle la première démarche qu'a fait... Je parle un peu de moi, excusez-moi. Qu'a fait mon mari, c'était dans les années 60, 5 ou 6 ans après notre mariage, il avait souhaité faire déjà une première démarche pour aller vers le baptême et... Il était mal tombé dans l'accompagnement et il avait trouvé que, bon, et on ne prenait pas assez en compte ce qu'il était au fond, sa formation intellectuelle, il avait fait des études de médecine, etc. Donc, ça l'a un petit peu bloqué.
Un peu refroidi.
Et donc là, on a un ami qui est prêtre, qui a été merveilleux et qui a su vraiment, plus que moi, parce que moi je suivais ce que me disait notre prêtre accompagnateur.
Il s'est mis à son écoute.
Voilà, et qui a su l'amener à... Parce qu'il fallait prendre en compte ce qu'il était vraiment. Et on ne pouvait pas faire, avec un homme de 85 ans, ou 83 ans, pardon, ce qu'on fait avec des gens plus jeunes, par exemple.
Oui, bien sûr.
C'est assez difficile. Ça m'a d'ailleurs beaucoup interrogée sur l'accompagnement. Hein.
Ah oui.
Sur la difficulté d'accompagner, comme ça, dans le catéchuménat, des personnes qui sont d'âge et d'origine tellement, tellement différentes.
Oui, avec ce langage dont vous parliez, qui n'est pas connu. Justement, j'avais une question à propos de ça. Comment justement vous... Alors, même si on voit bien que la Bible vous accompagne depuis de nombreuses années, comment vous essayez de rentrer de plus en plus dans ces récits de la Bible et de la comprendre justement avec des éléments qui ne sont pas forcément familiers?
Alors moi, je disais à mes étudiants à l'époque où j'étais encore en activité, je leur disais, essayez, entre guillemets, de faire comme si c'était à chaque fois vous découvriez le texte pour la première fois. Voilà. Vous vous dites, je n'ai jamais lu ce texte, comment il résonne en moi? Et Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on trouve des éléments. Vous évoquiez la femme hémorroïse, je l'avais choisie pour finir un cycle. Je crois que c'est pour la maîtrise, je ne me rappelle plus très bien. Non, peut-être à la licence, enfin, peu importe. Et donc, je me suis aperçue, ce texte m'interrogeait. Je me dis, mais enfin, pourquoi il est au milieu du texte de Jaïr, il y a ce texte-là. Oui. D'ailleurs, souvent, ils sont séparés. On en explique un, puis on explique l'autre. Et puis, je me disais, mais enfin, ce n'est pas possible. Il est dans ce texte. Oui. C'est qu'il y a une raison. Et à force de regarder, de relire, voilà, j'ai compris, enfin, il m'a semblé comprendre, j'en ai fait l'objet d'un travail, que ces deux textes étaient intimement liés l'un à l'autre et qu'on ne pouvait pas les séparer.
Et pourquoi on ne peut pas les séparer?
Parce que la femme hémorroïse est l'action transformatrice de Jaïr. Hein, Jaïr qui arrive, qui vient voir Jésus et qui lui dit « Bon, ma fille est malade, tu viens, tu me suis avec... Bon, »
Avec autorité.
Avec autorité. Mmh. Et d'ailleurs, après, on voit qu'on dit que Jésus le suivait, alors qu'en réalité, ce n'est pas Jésus qui le suit. Si on regarde la grammaire grecque, enfin bon, bref. Et sur le chemin, donc tout le monde s'en va, Jaïr et Jésus. Jésus et Jaïr, comme on veut. Et là, cette femme intervient qui ne demande rien. Qui n'a aucune exigence, qui arrive par derrière, qui touche le manteau de Jésus et qui est sûre qu'en touchant le manteau de Jésus, elle va être guérie. Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée ». Et là quand le récit de Jaïr reprend, je fais simple, hein, quand le récit de Jaïr reprend, on voit qu'il est complètement transformé. Il ne dit plus rien, il est devenu silencieux, il suit Jésus. Et c'est là que Jésus rappelle à la vie sa vie. Donc il y a un apprentissage, il passe de la parole au silence, et une foi qui est abandon en fait, et non plus injonction en fait.
Oui, c'est ça, il passe de l'injonction à l'obéissance.
À l'obéissance, ouais. À l'obéissance, à la confiance. Mmh. À la confiance.
À la confiance. Isabelle Rousselin.
Moi, je dirais que pour rentrer effectivement dans la Bible, chacun a sa porte privilégiée ou ses portes privilégiées. Moi, au début, c'était tout simplement les notes de la Bible de Jérusalem et de la Tobe. Et les parallèles, je recopiais tout ça, parce que ça correspond à mon esprit.
Mais il y a aussi... Et dans ces notes, qu'est-ce que vous trouviez de particulier?
On explique un mot, par exemple, parce que quand même, le cœur, c'est quelque chose, le nom, c'est quelque chose, dans la Bible, la gloire, c'est quelque chose. Donc il faut qu'on apprenne à comprendre, parce qu'il y a des petits lexiques, elles sont bien faites, normalement, les Bibles. Il y a plein d'outils, en fait, il y a des chronologies aussi à la fin, pour replacer le texte, surtout de l'Ancien Testament, dans leur contexte. Il y en a qui aiment bien lire un texte entier. Par exemple, quand j'ai lu la Genèse en entier, en suivi, c'était super aussi, parce qu'on rentre, on suit les personnages. David, c'est intéressant à suivre aussi. Donc, bon, il y en a qui aiment les histoires. Il y en a qui aiment les parallèles. Il y en a qui sont plutôt... qui vont beaucoup, recevoir d'un travail sur le terrain, d'aller en Terre Sainte, d'aller dans les paysages, de voir les choses... Il y a des outils comme le vocabulaire théologique biblique, là, qui aide à approfondir des termes. Et puis, j'avais quelque chose... Ah oui, d'avoir plusieurs versions aussi, ça aide. Moi, j'ai la Bible de Jérusalem et la Tobe, mais c'est vrai que, par exemple, André Chouraki, il a choisi de toujours traduire le même mot grec pour l'Évangile en un même mot français. Et ça permet de mettre en relation les textes que, dans la langue originale, étaient en relation par le vocabulaire. Et ça éclaire parfois beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de moyens de rentrer dans une Bible avec ce qu'on est, voilà, avec sa culture.
Et il faut partir avec la conscience du fait qu'à l'époque, moi je disais souvent cela, à l'époque on n'écrivait pas comme avec un ordinateur, ça ne marche pas, j'efface et hop là. L'écriture était quelque chose de très difficile. Donc lorsqu'un auteur choisissait un mot, il le choisissait vraiment dans un sens précis. Les répétitions d'un même mot, ça nous dérange en français, ça a un sens théologique. Donc, c'était très, très important. Alors, évidemment, il faut penser aussi que pour ce qui concerne le Nouveau Testament, nous avons les textes en grec. Donc, si on ne connaît pas la langue, bon, on peut aller dans une traduction bilingue où on a le mot français qui correspond exactement. Et on peut, en cherchant, voir où se trouve tout ce même mot dans le reste du texte, par exemple, de Jean, etc.
Et justement, vous auriez un exemple. Dans l'évangile de Jean, on voit bien qu'il y a des répétitions. Il y a des mots qui reviennent souvent. On pense au prologue. On pense au...
Alors, il n'y a pas longtemps, je faisais une petite conférence et j'expliquais. Nous avons le verbe aimer, par exemple. En français, aimer... On aime un petit peu à toutes les sauces. Hein. On emploie le même mot pour Dieu, qu'on aime Dieu, on aime ses parents, on aime la soupe, le sport, le cinéma, bon, peu importe. En grec, ce n'est pas la même chose. Et dans les traductions, ça n'apparaît pas toujours. Et alors, la nuance entre les deux verbes qui est aimer, l'aimer de l'amour de Dieu, cet amour divin, et aimer l'amour d'amitié qui est tout à fait louable, mais qui n'est pas du même niveau. En français, dans les traductions, pas toujours, mais souvent, il n'y a pas de nuance notée. Et on fait perdre beaucoup au sens. Par exemple, dans le dernier évangile, le chapitre 20 de Jean, quand Jésus demande à Pierre si...
Mais oui, à trois fois, m'aimes-tu ?
Et c'est pas les mêmes verbes. Il y a tout un jeu de mots sur ces deux verbes agapao, et les deux verbes aimer, agapao et phileo, et souvent ça n'apparaît pas dans les traductions.
Et en fait, ce qui est vraiment écrit dans ce texte-là, précisément, c'est trois formes d'amour.
Deux, essentiellement.
Deux, pardon, oui. que Jésus demande à Pierre.
Alors, il lui demande d'abord s'il l'aime, et il emploie le verbe de l'amour de Dieu et le verbe que lui-même a manifesté par sa mort sur la croix. Et Pierre répond par le seul mot qu'il connaît, philéo, qui est un amour d'amitié. Et la troisième... Alors, deux fois, Jésus demande ça. Et la troisième fois, comme il voit que Pierre n'a pas compris, enfin, ça, c'est mon interprétation, il lui demande en employant le verbe philéo. Et là, Pierre répond, mais oui, je t'aime, tu le sais bien. Puis il est un petit peu agacé.
Oui, un peu vexé,
voilà,
peut-être.
Il n'a pas compris. Mais finalement, est-ce qu'il pouvait comprendre ? Il exprimera ce verbe lorsqu'il mourra pour sa foi.
Oui, c'est ça. Merci de refaire, parce que parfois même on entend des faux commentaires là-dessus. En fait, Jésus rejoint Pierre dans ce qu'il peut maintenant.
Au niveau auquel il peut comprendre à ce moment-là.
Tout à fait.
Et c'est aussi le travail que la Bible fait sur chacun de nous, puisque voilà, à certains moments, vous le disiez, Isabelle Rousselin, un texte peut être ardu, et puis à un autre moment, il peut nous parler nous éclairer, parce qu'aussi, on a eu la communauté ou on a eu un éclairage de l'un ou l'autre.
Et puis, on a les circonstances de la vie aussi. Parce que même si on essaie d'être le plus objectif possible dans la lecture, on est quand même toujours, on lit toujours à partir de ce qu'on est.
Oui, bien sûr.
Des circonstances dans lesquelles on lit un texte.
Oui. Je vous propose de marquer une pause, Isabelle Rousselin et Marie-Christine Chou. Nous écoutons Ne crains pas, interprété par les frères de Saint-Jean.
Oh,
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Pourquoi lire et étudier la Bible aujourd'hui? C'est la question posée aujourd'hui à mes deux invités, Isabelle Rousselin et Marie-Christine Chou, toutes deux anciennes étudiantes et enseignantes à Toulouse Enseignement Biblique, au TEB. Depuis le début de l'année, le pape Léon XIV a entrepris une série de catéchèses consacrées au Concile Vatican II et notamment à la constitution dogmatique Dei Verbum sur la parole de Dieu. Celle-ci insiste sur la nécessité d'une étude scientifique des textes bibliques. En quoi est-ce important d'avoir une formation initiale pour lire la Bible?
Alors, c'est pour éviter d'abord les faux sens, voire les contresens, ce qui peut être risqué. Alors, pour moi, le premier risque, c'est de faire une lecture trop littérale, c'est-à-dire pense que le texte raconte exactement l'événement tel qu'il s'est passé.
Ce que vous disiez pour la Genèse.
Entre autres, pour la Genèse. Et puis, or, je pense à un exégète, Daniel Marguerat, qui disait toujours que l'événement a eu lieu dans le passé. Lorsqu'il a été mis par écrit, c'était bien après. Bien après. Donc forcément, il est relu à la lumière du présent du narrateur qui écrit le texte. Et donc, il faut avoir conscience de tout ça parce que les circonstances d'écriture influencent la mise par écrit du texte. Et donc, il faut bien. Alors, ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut se dire qu'il y a des genres littéraires. Les récits de la création sont un genre littéraire particulier, ce sont des récits mythiques. Donc, les lire comme s'étant passés vraiment mot à mot comme ça, forcément. Ça conduit à ce qu'on appelle le fondamentalisme, qui est quand même assez dangereux, parce que de là à dire que tout est faux dans la Bible, le pas est vite franchi par certains. Alors que ces textes sont magnifiques, ils sont l'expression en image d'un vécu qui doit rentrer dans des mots humains. Et comment les faire rentrer dans des mots humains, ce vécu qui exprime la transcendance divine et la foi en Dieu qui a créé le monde, à l'origine duquel il est. Donc il faut bien employer des images qu'on est capable de comprendre.
Et c'est forcément réducteur. Et,
alors réducteur, c'est poétique, mais il faut avoir conscience que ce sont des images. C'est de la théologie en images, si j'ose dire, voilà.
Un des risques à éviter, c'est, vous l'avez dit aussi Marie-Christine Chou, c'est d'être blasé face à l'Écriture sainte et de se dire, voilà, je l'ai déjà entendu, j'ai plus rien à en retenir.
Je pense que si on relit, il faut avoir envie, mais si on est vraiment, on a envie de vivre de la Bible, à chaque fois on est surpris. Et c'est vraiment... Vraiment, à chaque fois, moi, j'ai pas mal travaillé l'évangile de Jean, mais je suis émerveillée par les textes. Par exemple, la femme samaritaine, chaque fois, je le relis et je me dis, cette rencontre de Jésus avec cette samaritaine, mais c'est extraordinaire.
Tout le cheminement.
Je suis un peu la féministe qui parle, mais quand je vois que Jésus interpelle cette femme alors qu'un rabbi n'avait pas le droit de parler à une femme dans la rue, en principe, et qu'il lui parle, il va lui confier des choses extraordinaires à cette femme-là.
Et il lui révèle qui elle est.
Voilà, Bon, on pourrait prendre de très autres nombreux exemples, mais c'est d'autres nombreux exemples.
Isabelle Rousselin, sur cette nécessité de se former aussi pour lire la Bible.
Oui, donc hier, par exemple, avec mes élèves de 6e, on lisait l'évangile du jour où il était question de pharisiens et d'hérodiens. Donc je leur ai dit, attendez, il y a un petit astérix, on va aller voir dans le lexique qui c'est cela. Parce qu'au début, ils avaient lu le parisien. Alors, ce n'était pas un parisien, non, c'était un pharisien. Et donc, on a lu la définition. Et puis après, les hérodiens. Ah oui, il y a Hérode, il y a le roi. Donc, pour leur montrer qu'en fait, il y a un contexte, il y a un vocabulaire qui nous aide à comprendre pourquoi ils interpellent Jésus, sur quoi ils vont essayer de le coincer, quelles sont leurs conditions matérielles ou sociales ou leurs opinions politiques qui vont influer. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi quelque chose qui me semble essentiel, c'est que quand il y a un verset qui nous interpelle, il ne faut surtout pas le détacher de la révélation en général. Par exemple, si vous lisez Exode 31, 15, le septième jour sera un sabbat, un jour de repos complet consacré à l'Éternel. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. C'est terrible, je croyais que Dieu voulait nous aimer, voulait la vie. Donc, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Moi, je me dis ça, c'est un verset qui est aussi dans la Bible. Il faut que ça marche ensemble. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est aller voir des traductions différentes. Donc là, je suis allée voir dans la traduction de Chouraki et on lit. Donc, c'est beaucoup plus littéral. Hein. C'est parfois un peu rugueux parce qu'il utilise toujours le même mot français pour le même mot dans la langue d'origine, donc là, l'hébreu. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Tout faiseur d'ouvrage le jour du Shabbat mourra, il mourra. Ça veut dire quoi ? Si vous travaillez tous les jours, vous vous tuez à la tâche. Vous ne respectez pas votre dignité d'homme. Vous êtes comme des fourmis qui s'activent toujours, toujours, toujours. Non, Dieu nous a créés et nous a donné un jour de repos complet. Voilà, pour qu'on ait le temps de prendre du recul sur ce qu'on vit, le temps de s'ouvrir à des questionnements plus profonds et plus humains.
Voilà. Et se reposer.
Et se reposer en Dieu, et sanctifier le jour du Seigneur.
Oui, mais c'est intéressant.
Ça change tout.
Parce que mes élèves, ils étaient furieux de savoir que Dieu avait écrit ça. Ils se disaient, j'ai raison de ne pas croire en lui ou de ne pas l'aimer. Et puis après, ils se sont dit, oui, c'est vrai, en fait.
Vous nous disiez, pendant cette pause musicale, que vous aviez l'habitude d'apprendre par cœur. Un verset.
Alors moi, je n'ai pas l'habitude, mais il y avait une sœur du monastère où j'étais qui avait appris par cœur l'évangile. Elle était rentrée très jeune au monastère et elle avait appris par cœur les évangiles. Et le monastère était en Terre Sainte et pendant la deuxième intifada, elle tenait grâce à l'évangile qu'elle se récitait avec les bombardements en toile de fond. Mais elle, c'était vraiment une parole de vie pour elle. Donc ça m'a quand même interpellée et je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Et donc, moi, je ne suis pas rentrée aussi jeune qu'elle, et puis je n'avais pas la même mémoire qu'elle. Mais il y a quand même quelques textes, quelques versets, ou quelques psaumes aussi qu'on dit trois fois par jour dans le rite byzantin, par exemple le psaume 50, que je connais par cœur.
Pitié pour moi, Seigneur.
Voilà, exactement. Et puis il y a des chants qui nous aident aussi à ancrer en nous cette parole, à pouvoir nous y référer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les prisons, ceux qui ont des textes à se rappeler, ils passent beaucoup mieux, que ce soit la Bible ou de la poésie. Hein, il y a des témoignages récents sur ça, qu'on a besoin d'être habité par quelque chose de plus grand que nous.
Comment on travaille un texte biblique ? Marie-Christine Chou, vous nous avez parlé de cette méthode historico-biblique. Il y a d'autres méthodes.
Alors, il faut d'abord commencer par définir le genre du texte qu'on...
Donc, le genre littéraire.
Le genre littéraire. Est-ce qu'il s'agit d'un récit ? Est-ce qu'il s'agit d'un texte de loi ? Parce qu'on ne va pas aborder de la même façon le texte. Puis ensuite, il faut surtout le replacer, alors, deux points. D'abord, dans le co-texte, c'est-à-dire dans les versets qui précèdent et ceux qui suivent, immédiat. C'est ce qu'on appelle le co-texte. Et puis ensuite, dans le contexte, c'est-à-dire dans le texte, est-ce qu'on est chez Jean ? Est-ce qu'on est dans la Genèse ? Où est-on ? Voilà. Dans le livre dans lequel duquel le texte a été extrait. Ça, c'est important parce que si je crois que vous le disiez tout à l'heure, si on extrait comme ça des versets hors de leur contexte, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est vrai pour tout d'ailleurs. C'est pas seulement vrai pour la Bible.
Oui, bien sûr.
Donc, une fois qu'on a bien repéré et qu'on a bien, mettons qu'il s'agit d'un récit. Qu'on a repéré le genre littéraire, qu'on a repéré sa situation dans un livre plus vaste, on commence à regarder. Alors moi, personnellement, si c'est un récit, je vais essayer de voir ce qu'on appelle l'analyse narrative, les parties du récit. Un récit, c'est une histoire. Il y a un nouement. Il y a ensuite quelque chose qui va faire basculer le récit dans son opposé, dans le dénouement, etc. Et à partir de là, on arrive à découvrir des gens. On regarde les personnages, on regarde les temps, les lieux. Et puis ensuite, on peut regarder aussi les mots, les verbes, la structure de la phrase. Alors en grec, et ça c'est pas toujours rendu en français, en grec, la phrase commence généralement par le verbe. Et si tout d'un coup la phrase ne commence pas par le verbe, c'est qu'il y a un sens. C'est que le mot est mis en valeur. Il y a quelque chose qui est mis en valeur. Voilà. Et voilà, il faut quand même avoir quelques outils. Ça s'apprend. Hein. On peut les trouver, les manuels, enfin, je suppose. Ou on va au thème, où on va à l'Institut catholique, à la faculté de théologie, il y a des, on prend des cours, il y a quand même des... On peut apprendre ça.
Voilà. Et il y a ce petit fascicule que vous avez apporté, Isabelle Rousselin, qui permet de comprendre le texte à partir de sa traduction grecque, c'est ça ?
Voilà, moi je me suis procuré un petit dictionnaire avec tous les mots qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est tout fin, il n'y a pas tant de mots que ça. Et donc ça permet aussi de mettre en lien les textes qui utilisent le même mot. On avait parlé tout à l'heure d'agapé, de philène, de termes qu'on traduit en français par aimer, et bien là, on peut départager les textes en fonction de là où ça parle de l'amour qu'on a pour Dieu et que Dieu a pour nous, ou l'amour qu'on a pour un ami. Donc ça, il y a des dictionnaires bibliques, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à rentrer dans ces textes.
Est-ce que vous avez des exemples de textes bibliques qui vous ont particulièrement déplacés ou qui vous ont fait changer de vision sur quelque chose ou qui vous ont éclairé aussi sur une situation quotidienne ou sur un choix?
Moi, ce qui m'a le plus interpellée il y a quelques années, enfin ça remonte à 30, 40 ans, c'était ces fameux récits de la création. Oui. Ça m'a vraiment... surtout qu'il y a eu quand même une époque où on les prenait à la lettre. Et j'étais gênée. Je me le rappelle, j'avais déjà mes enfants et je leur lisais de temps en temps la Bible, mais je le faisais déjà sans savoir. Je n'employais pas le mot récit mythique parce qu'elle serait désorientée, mais je leur disais, écoutez, c'est une manière de nous dire, par exemple, le récit de la création en 7 jours, c'est l'évolution du cosmos. Hein. Voilà, on l'appelle comme on veut. Et on peut y retrouver... mais pas de façon strictement scientifique, on peut y retrouver l'évolution scientifique du monde, hein, si on réfléchit bien.
Oui,
voilà, c'est tout.
Isabelle Rousselin. Oui, moi, je peux dire que je n'ai pas un exemple précis, mais ça m'arrive souvent que je trouve, si vous voulez, dans les lectures du jour, un éclairage pour ma vie. Et là, j'ai passé une semaine dans une communauté qu'on appelle La Viale, en Lozère, où ils disent la prière des heures tous les jours, mais... quand les 3 psaumes ont été psalmodiés, on prend un temps, on s'arrête. Et chacun relit doucement et peut exprimer à haute voix le texte, le verset qu'il prend pour la journée. Voilà, ce qui l'a touché aujourd'hui. Parce que quand même, dans la parole de Dieu, oui, Dieu nous parle en fait. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. On attend des grandes révélations ou des apparitions. Bah non, en fait, Dieu nous parle. Et souvent, les textes du jour, ils vont très bien, en fait. Nous, notre mère Igoumène, quand elle choisissait le texte qu'on allait méditer le vendredi, le plus souvent, elle tombait sur le texte du jour ou le texte du dimanche ou de la fête qu'on préparait. Parce que quand même, la liturgie, elle est bien faite. Il y a une pédagogie, il y a une respiration qui nous fait grandir.
Et puis c'est aussi une forme d'obéissance, en fait, c'est d'accueillir le texte que nous donne l'Église et pas de s'en saisir comme si on en était propriétaire.
Alors, pour compléter Marie-Christine ce que vous dites, vous avez raison, et vous avez insisté sur le fait qu'il faut partir du texte, parce qu'il y a un danger aussi. Il y a le danger d'une lecture en miroir ou fusionnelle, c'est-à-dire j'ai un problème, je vais ouvrir la Bible à n'importe quel endroit et pof, tiens, comme par hasard, je tombe sur le texte qui... Alors qu'en fait, en réalité, je vais tordre le texte pour y trouver la réponse que j'attends. Donc, il faut faire attention aussi à cette lecture en miroir. Mais vous soulignez justement, Isabelle, qu'il faut évidemment partir du texte. Il faut d'abord avoir le texte et dans ce texte-là, on le laisse nous interpeller et pas faire l'inverse.
Oui, c'est ça.
Pas projeter notre subjectivité sur un texte pour lui faire dire... Parce qu'en fait, le texte devient un prétexte à ce moment-là.
Et ça peut être dangereux.
Évidemment, parce qu'on va faire dire n'importe quoi à la Bible.
Il y a des textes très intéressants, c'est ceux qui nous font sauter au plafond, parce que vraiment, on n'est pas du tout d'accord. Alors, c'est bien, ça veut dire qu'on est vivant, ça veut dire qu'on prend Dieu au sérieux. Et donc, c'est bon d'aller les étudier plus précisément. Souvent, entre Noël et le Nouvel An, vous avez Éphésiens 6... « Enfants, obéissez à vos parents. » Et alors, les parents rebâchent ça au repas du dimanche. Mais alors, quand même, nous, les enfants, on leur disait, mais si vous lisez bien, « Et les pères, ne provoquez pas vos enfants. »
Il faut exaspérer les enfants.
Donc, en fait, il faut toujours aussi, quand on est... quand on est interpellé par un texte, il faut y aller, et il faut aller jusqu'au bout. Parce que, oui, on peut se convertir de cette façon. Parce que ça part de nous, ce qu'on est, ce qui nous travaille, et Dieu nous donne quelque chose, une réponse, une piste de travail. Pour qu'on progresse, en fait. Et on n'est jamais... Enfin, moi, je rarement déçue. Mais parfois, ça prend du temps. Parfois, on se bat avec un texte pendant plusieurs semaines ou peut-être même plusieurs années. Mais ça arrive. Ça arrive parce que la Bible, elle est vaste. Donc, on va... Il faut s'accrocher. Il faut pas baisser les bras. Il faut garder nos questions. C'est très précieux, tout ça.
Et peut-être accepter de ne pas avoir une réponse tout de suite. Et peut-être de mettre le texte un peu de côté, se laisser éclairer par d'autres textes.
C'est vrai. La patience, c'est important. Puis aussi l'aide de l'Esprit-Saint. Demander, par exemple... Quand même, l'Esprit-Saint, c'est celui qui était en Jésus, c'est celui qui a inspiré les auteurs, et c'est lui qui nous donne la vie aussi. Donc, lui, il peut nous aider si on ne comprend pas. Mais il faut lui demander, il faut prendre le temps qu'il nous réponde.
Je crois que la Bible, on en a jamais assez toute une vie pour l'habiter. Et parce que si on se dit, bon, ben maintenant je sais tout, en fait, on enferme la parole de Dieu dans nos limites à nous. Et en fait, la parole de Dieu, elle transcende nos limites humaines. Donc, aussi longtemps qu'on vit, on n'en a jamais fini de la découverte du sens de la Bible. Et parce que sinon, ce serait réducteur de le penser.
Merci en tout cas pour vos témoignages. Merci Marie-Christine Chou, merci Isabelle Rousselin. Vous nous avez éclairé sur l'importance de lire la Bible et et de l'étudier. Aujourd'hui, c'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci.
Merci, merci à vous.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.